Nous devons lutter énergiquement contre toute forme d'antisémitisme politique et religieux. Voilà ce qu'on peut lire dans la déclaration que les évêques de France ont remise le 1er février dernier à Im Corsia, c'est le grand rabbin de France, ainsi qu'à Francis Khalifa, le président du CRIF. Cette déclaration intervient alors que la France fait face à une inquiétante résurgence de l'antisémitisme. Selon les mots des évêques, la lutte contre l'antisémitisme, écrivent-ils, doit être l'affaire de tous. Et ce devoir, estiment les évêques, incombe particulièrement aux chrétiens en raison de leur lien spirituel unique avec le judaïsme. Ce sont ces liens complexes que je vous propose d'explorer ce matin avec l'historien Philippe Faureau, maître de conférence à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle.
Merci d'avoir une nouvelle fois accepté d'éclairer notre lanterne. Nos auditeurs vous connaissent bien maintenant. Nous parlons ce matin, Philippe, des liens entre juifs et chrétiens. Ces liens posent évidemment la question de la responsabilité des chrétiens dans un antisémitisme qui remonte au 1er siècle. On va le voir ensemble. Alors, on va poser les règles, hein, Philippe. Nous n'avons qu'un petit quart d'heure à passer ensemble. On va donc se contenter d'explorer les moments clés de ces relations difficiles en mettant, évidemment, en dernière partie d'entretien, un coup de zoom, un coup de projecteur sur notre région où des chrétiens se sont illustrés dans la lutte contre l'antisémitisme. Philippe Faureau, cette première question d'abord. À quel moment les chrétiens ont oublié ce que les évêques nous remettent en mémoire, à savoir que les juifs sont nos frères aînés, selon les mots de saint Jean-Paul II, nos pères dans la foi, selon ceux de Benoît XVI.
Alors, avant, Isabelle, de répondre à cette question, juste une petite précision de vocabulaire, justement, parce que on parle d'antisémitisme, mais le mot lui-même est assez récent. C'est-à-dire qu'il apparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il semble même qu'on puisse le dater de 1879, quand un journaliste allemand, Wilhelm Marr, avait créé une ligue antisémite. Et à partir de là, il s'est propagé finalement dans les langues européennes et en France dans les années 1880. Auparavant, on pouvait plutôt parler d'un anti-judaïsme lié justement à la question religieuse. Et alors que l'antisémitisme a développé non seulement la question religieuse, mais qui est très ancienne, on va y revenir, mais la question de la race, et donc d'une sous-race que le nazisme, évidemment, va porter à son zénith. Alors, pour répondre à votre question, dès l'Antiquité, il y a effectivement une séparation. D'abord, je vais enfoncer une porte ouverte pour nos auditeurs, c'est que le christianisme est né dans un milieu juif. Ça, le Christ a vécu dans un milieu juif, ses disciples, premiers disciples, étaient des juifs, et Paul et les premiers missionnaires vont en particulier dans les synagogues. Mais il se trouve que la conversion attendue n'arrive pas. C'est-à-dire que des juifs se convertissent, mais que la plupart restent fidèles à la foi de leur père, à la loi de Moïse. Et évidemment, il va falloir peut-être s'en distinguer clairement, progressivement, assez lentement, parce que là aussi, vous avez une difficulté que les historiens essayent d'analyser, c'est à partir de quand cette séparation va vraiment être nette. Ça commence peut-être au cours du fin 1er et 2e siècle, où effectivement on note que, on abandonne les traditions mosaïques, et puis les évangiles eux-mêmes nous montrent bien, eux qui sont écrits pour la plupart dans les années 80 et fin du 1er siècle, nous montrent bien que les pharisiens sont désignés comme des adversaires premiers, parce que finalement, au moment où on écrit les évangiles, il n'y a pas eu de conversion massive. Et donc l'adversaire, c'est aussi le juif. Et qui plus est, le premier christianisme a souhaité sans doute aussi se distinguer du judaïsme vis-à-vis de l'autorité romaine. Parce que l'autorité romaine, au début, ne fait guère de distinction entre...
Et c'est la question que j'allais vous poser. Ouais.
Ah oui, cette petite secte d'origine juive, c'est pas évident pour l'autorité romaine de la distinguer clairement. Or, à partir de la grande révolte juive de 66 et 73, avec la prise de Jérusalem en 70, la destruction du Temple, il ne s'agit pas d'être confondu avec des Juifs. C'est-à-dire qu'il va falloir bien mettre une distinction entre juifs et chrétiens, d'autant plus que d'autres révoltes juives vont secouer l'Empire en 116, 117, en Égypte et en Cyrénaïque, et puis la grande révolte aussi de 132, 135. Et donc il y a indéniablement une séparation qui se fait progressivement et qui va peut-être véritablement aboutir au IVe siècle, où là, clairement, la rupture est totalement consommée.
Et alors, c'est quoi le moment de rupture du IVe siècle,
hein? Le IVe siècle correspond à la conversion d'un premier empereur romain, c'est Constantin, au fait que l'Empire va reconnaître le christianisme comme religion licite, religion autorisée, quelques dizaines d'années plus tard, en 380, va en faire la religion de l'État romain, à l'époque de Théodose. Et là, évidemment, ça va provoquer, de la part des autorités impériales, une législation anti-juive, claire, qui vise d'ailleurs aussi une législation anti-païenne. Mais par exemple, en 352, on interdit aux juifs tout prosélytisme.
Ah oui.
En 415, interdiction de construire de nouvelles synagogues. Donc il y a, à ce moment-là, à l'époque de l'Empire chrétien, une législation qui vise clairement le judaïsme, les juifs, la religion juive. C'est pour cela, je crois, que le IVe siècle est un siècle, d'officialisation d'un anti-judaïsme très, très marqué, jusqu'au sommet de l'État romain.
Et est-ce qu'ils ont été persécutés comme l'ont été les chrétiens ? Est-ce qu'ils...
Dans la longue histoire des relations entre juifs et chrétiens, il y a eu bien sûr...
Par les Romains, j'entends. Hein.
Ah, par les Romains, pardon. Alors, par les Romains, c'est-à-dire que la répression vis-à-vis des juifs n'est pas religieuse. Parce que le judaïsme est une religion autorisée. Elle est ancienne, ce qui est une marque de respect pour les Romains. Et à l'époque de Jésus de Nazareth, les autorités romaines laissent faire le pèlerinage de la Pâque, le culte au temple, les synagogues fonctionnent. Donc il n'y a pas de problème sur le plan religieux. Ils ne comprennent pas sans doute trop les subtilités de la foi juive, mais... C'est une religion autorisée. Par contre, religion autorisée. Par contre, évidemment, dès qu'il y a une révolte contre l'autorité, comme celle de 66 qui va aboutir quand même à la destruction du temple, alors là, la répression peut être extrêmement sévère. Et là, Rome peut frapper durement.
Alors, on va faire un bond dans le temps et aller et nous diriger, nous acheminer lentement vers le Moyen-Âge où vont advenir, je crois, les premiers pogroms. Hein.
Oui, le Moyen-Âge est une période, effectivement, je dirais, globalement délicate dans les relations entre le monde chrétien, qui, cette fois-ci, je dirais, est vraiment très dominant dans l'Europe. Établi, et la présence de communautés juives dans bien des pays. Alors, il y a eu effectivement, d'abord, au Moyen-Âge aussi, des chrétiens qui ont pris des positions de protection, de faveur et de protection vis-à-vis des juifs. Par exemple, le pape Grégoire le Grand, au début du 7e siècle, fin 6e, début 7e siècle, dit que c'est louable de les convertir, mais on ne peut les convertir que par la bonté. Par finalement la parole, par le témoignage. Saint Bernard, au XIIe siècle, a des propos, des écrits, où il demande finalement le respect, une protection pour les Juifs. Donc il y a des éléments quand même, je qualifierais de positifs. Néanmoins...
Oui, ce n'était pas un anathème unanime totalement, vous faites bien de le souligner.
Oui, l'histoire est une école de nuances, effectivement. Mais par contre, évidemment, vous avez prononcé le mot de pogrom, bien sûr qu'il y en a eu, en particulier, par exemple, à l'époque de la Grande Peste, au XIVe siècle, où on a accusé les Juifs d'être finalement les causes de la peste. Il y a eu des pogroms...
Le bouc émissaire.
Exactement, c'est le bouc émissaire. Et il y a eu aussi des pogroms auparavant, par exemple lors de la première croisade, où il y a eu des pogroms dans des villes au moment où les croisés passaient. Donc ça, évidemment, c'est le massacre. Il y a eu aussi, au Moyen-Âge, des législations anti-juives qui cherchent à les marquer. En 1215, le quatrième concile du Latran demande à ce qu'ils portent des signes et des vêtements distinctifs, qu'on ne les confonde pas dans la foule.
Hitler n'a pas totalement rien inventé.
Et de ce point de vue-là, ils ont déjà été marqués. Au Moyen-Âge, il y avait effectivement cette tradition. Et le roi Louis IX, qui deviendra Saint-Louis, promulguer une ordonnance royale en 1269, si je me trompe, qui justement demande à ce qu'on les marque dans le royaume, c'est-à-dire qu'ils aient des signes distinctifs.
Et quelle était la réponse des Juifs face à cette hostilité, leur attitude à l'endroit des chrétiens plus particulièrement ?
Vous savez, les Juifs sont tellement minoritaires dans la chrétienté médiévale que leur capacité est minime.
Ils prêtaient aux chrétiens, d'ailleurs, je crois. Hein.
Voilà, exactement, oui. Alors, il y a d'abord, je dirais, un premier élément, c'est que globalement, ils se soumettent. C'est-à-dire qu'ils se soumettent, ils se soumettent aux autorités, parce que ils n'ont pas de moyens, s'ils peuvent envoyer des délégations pour essayer d'apaiser les choses, d'obtenir quelque chose, mais globalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'autres moyens, souvent, que la soumission aux autorités. Qui plus est, il y a des fois aussi, dans les moments de très grande tension, eh bien... je dirais le choix, par exemple, des conversions forcées. Si vous permettez, ça s'est passé à Toulouse, en 1320, dans une ville que nous connaissons bien. Grâce au témoignage du manuel de l'inquisiteur de Jacques Fournier, nous connaissons un événement donc qui s'est déroulé en 1320 pour un juif qui s'appelait Baruch. Une foule s'était excitée et voulait imposer le baptême à des juifs de Toulouse. Ils sont allés chercher ce commerçant, Baruch, chez lui, et bon, ben, face à l'hostilité absolue, il a accepté d'être baptisé. Et il raconte qu'il a été amené à la cathédrale Saint-Étienne, et devant la cathédrale, il y avait plusieurs juifs qui avaient déjà été massacrés parce qu'eux, ils avaient refusé. Et lui, il a accepté, mais il a demandé à ce que son parrain soit un dominicain, qui était un de ses amis, donc vous voyez là aussi, il pouvait y avoir aussi des relations amicales des fois, qui s'appelait Jean Allemand. Et alors on l'a conduit vers les Jacobins, vers le couvent des Dominicains, et il a revu là un autre juif issu de la communauté de Tarascon en Provence, tué à l'entrée des Jacobins, et lui, et bien finalement, a été, dit-il, baptisé, selon les rites qui lui ont apparu être les rites chrétiens d'après ce qu'il connaissait, je ne vous dis pas évidemment la préparation au baptême, et il a dit « j'ai pris comme prénom chrétien Jean ». Donc là, nous avons effectivement une latitude que personne ne peut reprocher de quelqu'un qui, un juif qui a accepté le baptême. Il y a eu des baptêmes, effectivement, par moments forcés. Donc, effectivement,
Philippe,
le sort des communautés juives est très délicat au Moyen-Âge.
Alors, je vais devoir vous presser, vous tirer vers le XXe siècle, qui va être le siècle du tournant, le siècle du changement, et cela à cause d'un drame, celui de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, évidemment, la Shoah, ça a été, ce fut un choc énorme. À vrai dire, avant même la catastrophe, il y avait eu tout de même des textes et des attitudes de chrétiens qui avaient changé. Le Saint-Office, en 1928, avait produit un texte condamnant l'antisémitisme. En 1937, est publiée une encyclique pontificale de Pie XI en langue allemande, ce qui évidemment n'est pas innocent, Mit Brennender Sorge, qui conteste et condamne les théories raciales et antisémites. Donc il y a des prises de position, je dirais, au plus haut sommet de l'Église.
Et puis on pense évidemment à Monseigneur Saliège à Toulouse, à Monseigneur Théas à Montauban.
Oui, alors ça, c'est effectivement dans le cadre de l'occupation. L'Allemagne nazie entame véritablement à partir du début de 1942 une politique systématique de rafle envers les juifs de l'Europe occupée. Et notre région est frappée en particulier au début du mois d'août 1942. Et là, vous avez effectivement des prélats, l'archevêque de Toulouse, Mgr Saliège, le 23 août, Mgr Théas, une semaine plus tard, qui font lire en chaire par leur curé une lettre pastorale qui condamne le sort réservé aux Juifs et les rafles qui sont effectuées contre eux. Donc il y a là, je dirais, une position forte qui a indéniablement ouvert des consciences, même si, me semble-t-il, une bonne partie des chrétiens avaient déjà la conscience ouverte face à la question de l'antisémitisme, peut-être même avant la guerre, je ne dis pas tous, mais tout de même il y avait des chrétiens qui, je dirais, étaient tout à fait conscients, et d'ailleurs Mgr Saliège lui-même, en 1933, participe à un meeting au Théâtre du Capitole contre l'antisémitisme, donc et avant même la guerre.
Et pourtant, Philippe, vous me l'avez dit en préparant cet entretien, jusqu'au XIXe siècle, le pape allait le Vendredi Saint au ghetto, il giflait le rabbin en signe du souvenir du Vendredi Saint.
Oui, c'était un geste symbolique, parce que il y avait là aussi paradoxe. Les papes ont bien souvent été des protecteurs, en Avignon, dans le comtat vénitien, et à Rome même, c'était les juifs du pape aussi. Mais l'habitude était prise le Vendredi Saint que solennellement le souverain pontife aille souffleter, on disait.
Souffleter
le grand rabbin et les responsables de la communauté qui se trouvaient dans le ghetto qui se situe près de l'île Tibérine à Rome. Et donc c'était évidemment symbolique parce qu'ils avaient crucifié le Christ. Ils étaient le peuple déicide. Ce qui oubliait une chose fondamentale, c'est que tout de même, ce n'est qu'une infime minorité de juifs qui a voulu véritablement la condamnation de Jésus de Nazareth. Mais c'était désormais, et depuis finalement la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge, le peuple déicide, celui qui avait tué le Sauveur.
Évidemment, il faudra attendre Vatican II, il faudra consacrer un numéro ensemble à Vatican II et puis qui nous a conduit au geste historique de Jean-Paul II en 2000, on s'en souvient, au mur des lamentations.
Ah oui,
la lutte contre l'antisémitisme doit être l'affaire de toutes, de tous. Cette déclaration dont le titre affirme que lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle va être désormais transmise dans tous les diocèses. Merci beaucoup Philippe pour vos
Avec
éclairages.
Grand plaisir, Isabelle.